Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
Bonjour Pierre-Olivier.
Salut Vincent.
Tu nous parles de voyageurs qui se sont fait refuser leur remboursement. On sait qu'ils sont nombreux là, essayer de se faire rembourser toutes sortes de voyages et ça marche pas pour tout le monde.
Ben, il y a des milliers de clients de Transat et d'Air Canada qui sont extrêmement déçus à l'heure actuelle parce que, évidemment, il y avait de belles promesses, celles d'être remboursés rapidement avec l'aide du gouvernement fédéral, mais ils se rendent compte que ça risque de prendre des mois et des mois. La raison, c'est que plusieurs ont réservé leur voyage sur Internet, comme on le fait quand on veut aller prendre des vacances dans le Sud, et ils ont un vol avec Transat, mais ils avaient dans un forfait tout inclus également l'hôtel, les repas, etc. Et là, les agences de voyage refusent de rembourser les clients parce que ce qu'ils disent, c'est écoutez, le vol, l'hôtel, tout ça est dans un package et on ne peut pas vous rembourser. Et on retourne les clients au FICAV, le fonds d'indemnisation oui. des clients des agents de voyage. Alors, ce sont des milliers de Québécois, et puis vous êtes nombreux à m'écrire en me disant, OK, qu'est-ce qu'on doit faire à partir de maintenant? Il n'y a pas de réponse très claire. L'industrie, en ce moment, est en train de consulter à la fois le gouvernement, c'est le dossier de Simon-Jolin Barrette, et on demande également aux transporteurs aériens qu'est-ce qu'on va faire, mais pour l'instant, ces clients-là sont dans l'impasse.
Tu peux pas, parce qu'on comprend que dans le pack, j'ai une partie du le vol, mais ben, on n'est pas capable de juste se faire rembourser cette partie-là du package. Là.
Et une des raisons qui peut expliquer ça, Vincent, c'est que lorsque Transat vend un billet à un forfaitiste qui s'occupe de joindre à ce billet d'avion un séjour à l'hôtel avec les repas inclus, Transat dit à la compagnie qui s'occupe des forfaits, vous n'avez pas le droit de dévoiler le prix du billet d'avion.
Parce qu'on comprend que c'est moins cher,
est
pas
comme
mal.
Fusionné. Ben oui, il y a une bonne escompte sur le volume. Donc là, aujourd'hui, ces agences de voyage-là ne remboursent pas leurs clients. Il y a toutes sortes de stratagèmes en place aussi. Vous allez avoir des agences de voyage qui vont dire à leurs clients, écoutez, payez un 75$, on va analyser votre dossier. Et là, ensuite, ils se font répondre, ces clients, ben malheureusement, vous ne pouvez pas vous faire rembourser. Vous devrez vous adresser au fonds d'indemnisation. Alors, ça soulève la grogne de bien des clients qu'on comprend. Et ce soir, d'ailleurs, à l'émission, on va recevoir l'association des agents de voyage pour faire le point là-dessus, parce que ça concerne pas mal de monde.
Est-ce que quand même le gouvernement peut réagir avec quand même de la fermeté là-dedans? Il n'y a pas grand-chose à perdre, là. Les agences de voyage, les voyagistes, ceux qui s'organisent avec les forfaits, qui soient forcés de rembourser les clients, ça me paraît quand même la base.
C'est parce que ça traîne depuis plus d'un an.
C'est ça.
Alors, à un moment donné, il va falloir soit accélérer le processus au fonds d'indemnisation qui a été pris en charge par PricewaterhouseCoopers, mais écoute, sur les milliers et milliers de dossiers, Vincent, qui ont été présentés au fonds d'indemnisation, il n'y en a pas un en ce moment qui a été réglé. Alors, à un moment donné, quelqu'un, quelque part, va devoir mettre la pédale sur l'accélérateur.
Rappelez que le voyage, il n'a pas eu lieu, c'est pas à cause du client, là. D'aucune façon, le voyage n'a juste pas eu lieu, là. Donc, que tu sois t'aies autant de difficultés à te faire rembourser, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, pour une rare fois, quand même, depuis plusieurs mois, c'est peut-être pas la journée pour aller regarder ses placements en bourse.
Il y a une expression dans le milieu de l'investissement, sell in May and go away. Vendez vos actions en mai et tournez le dos au marché en quelque sorte. Aujourd'hui, les principaux indices ont pris une méchante débarque, surtout dans le secteur technologique. Et là, les gens se posent la question, comment dois-je adapter mon portefeuille pour les prochains mois? C'est une question pertinente à se poser. La menace de l'inflation, et on entendait Janet Yellen qui s'occupe en quelque sorte des finances, c'est la ministre des finances aux États-Unis, qui disait peut-être qu'à un certain moment donné, il va falloir hausser les taux d'intérêt. On en parle régulièrement ensemble. Il y a des pénuries qui se pointent à l'horizon dans plusieurs secteurs. Le prix des métaux et des aliments de base augmente. Donc, pour éviter une surchauffe de l'économie, qu'est-ce que font les banques centrales? Elles augmentent les taux d'intérêt. C'est plus difficile d'emprunter. On a moins d'accès au crédit. Donc,
Mais tu dis, elles le font pas souvent, là.
Depuis un méchant bout. Mais là, ce que certains prévisionnistes s'aperçoivent avec l'inflation qui se repointe le bout du nez, c'est qu'il va peut-être falloir le faire. Et sur 10 ans, on va peut-être avoir plusieurs hausses. Et ça, évidemment, lorsqu'on hausse les taux d'intérêt, les actions, donc les titres plus risqués sur le marché, deviennent moins intéressants. Puis aujourd'hui, tu vois, le secteur techno, à un certain moment, perdait presque 3%. Donc l'indice Nasdaq, qui a finalement clôturé à peu près 1,8 de baisse. Mais il faudra être attentif au cours des prochaines semaines, des prochains mois à certains signaux. Je lisais plusieurs rapports d'analystes qui prévoient un recul boursier qui pourrait être de l'ordre de 10 à 15 %. Ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser, mais soyons prudents et regardons l'évolution des banques centrales, comment celles-ci vont réagir face à la façon dont se comporte l'économie, parce que, faut-il le rappeler, cette pandémie-là a déjoué bon nombre de prévisionnistes. En ce moment, la Banque centrale du Canada, la Fed aux États-Unis prévoit une inflation, donc une hausse du coût de la vie passagère. Mais si cette hausse devait être durable, elles n'auront pas le choix d'intervenir et ça aura des conséquences pour les gens qui investissent en bourse et ceux qui contractent des hypothèques à l'heure actuelle.
Et je voyais que pendant ce temps-là, le Dogecoin, une crypto-monnaie en blague, a monté de 40% là, depuis hier.
Hey, écoute, c'est la folie, puis c'est un peu le monde à l'envers des actifs aussi risqués. Je veux dire, le Dogecoin, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les crypto-monnaies, c'était comme une blague au départ, tu sais, c'était pas sérieux.
Je pense que ça l'est encore. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec GameStop, là, en disant, écoute, c'est un jeu, là. Il y a une génération qui s'amuse avec la bourse comme les autres ne s'amusaient pas avant, puis ça donne des éléments qui sont juste loufoques, là.
C'est ce qu'on appelle en anglais les meme stocks. Donc les jeunes investisseurs qui prennent le pari qu'ensemble, avec l'effet de groupe, ils vont pouvoir faire monter le prix d'un actif financier. On le voit, parfois ça fonctionne, mais c'est extrêmement risqué. Mais je te donne, juste pour te donner une idée, là, un Dogecoin, le 11 novembre 2020, valait 0,002 sous. OK? Donc, même pas une scène. Et oui. Là, il en vaut à peu près 60 cents. Il y a des gens qui ont fait énormément d'argent. Je pense au président fondateur de Tesla, Elon Musk, qui en a fait la promotion du Dogecoin. Une blague qui a rendu des gens extrêmement riches. Mais on s'entend que cet actif-là ne vaut pas grand-chose, sauf sa réputation et le fait qu'il a explosé au fil des dernières semaines. Si on avait pu prévoir ça, là, que un jour, en pleine pandémie, alors que l'économie mondiale est déstabilisée, ce genre d'actifs financiers atteigne des rendements stratosphériques, je pense qu'il n'y a pas un économiste qui l'aurait prédit, Vincent.
Oui, il y en a qui font peut-être dire, mais ça coûte pas cher, sauf que je pense que des Dogecoin, il y en a, c'est à coût de 100 milliards, là, c'est une quantité complètement folle. De rien, il faut se rappeler, là, on achète à peu près pratiquement rien.
T'achètes un chien sur une monnaie virtuelle intangible qui ne sert à rien. Alors, voilà.
C'est compliqué. Ça, je vous salue parce que d'essayer d'expliquer ça, c'est quand même pas simple.
Ah, mais je pense honnêtement, Vincent, que même les plus grands experts au monde ne comprennent pas ça. Ne comprennent pas ce qui se passe.
Effectivement. On verra dans quelques années si c'est à zéro ou si c'est à 100 $. C'est qui s'est fait avoir là-dedans. Pierre-Olivier, merci encore à vos affaires ce soir, 18h30 à LCN et à Cube Radio. On se reparle demain.
Merci Vincent, demain. Salut. Bye bye.